Ok, surprenant.
Qui aime Jésus? Merde.
C'est précis comme question pour le coup.
C'est une très bonne question que je ne me suis jamais posée.
Oh non, pas cette question. Elle est trop dure. C'est une bonne...
Voilà, c'est à la fois marrant et à la fois triste. Ah mince, j'ai perdu ma note. Voilà, c'est à la fois marrant et à la fois triste. Et cette question, qui est Jésus ? Je vous la pose moi là ce matin. C'est une question qu'il faut se poser. Voilà. Je vais inviter Laurence juste à lire. Sur ce que nous allons voir dans Marc 8, versets 22 à 38. Marc 8.
Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison, en disant « N'entre pas au village ». Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur posa en chemin cette question « Qui suis-je, au dire des hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous ?» leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Christ ». Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. »
Merci Laurence. La semaine dernière, je vous avais demandé de parcourir, en fait, de cheminer les 8 premiers chapitres de Marc. J'espère que vous l'avez fait, parce que pour suivre, en fait, il était important. Mais c'est pas grave, si vous l'avez pas fait, parce que il suffit juste de suivre et d'écouter. Jésus dit « Qui dites-vous que je suis ?» Ces versets que Laurence vient de nous lire sont un résumé de tout l'évangile de Marc et même de l'ensemble de la foi chrétienne. Je vous propose l'ascension, de 3 sommets, on va parler encore de montagne, qui représentent 3 questions qu'il faut nous poser pour faire le point. La question essentielle, les questions essentielles sont qui est Jésus? Quelle est sa mission? Qu'est-ce que Jésus attend de nous? En réponse à ces questions, nous allons cheminer ensemble de tenter d'atteindre trois sommets et qui peuvent représenter trois pics théologiques. Nous sommes confrontés à cette question à travers tous les évangiles. Qui est cet homme si semblable à nous et pourtant incomparablement élevé au-dessus de tout? Marc nous fait approcher le mystère de Jésus qui se révèle toujours en clair-obscur, obligeant les hommes à un effort soutenu de discernement. En effet, toute la première partie de l'évangile du chapitre 1-14 au chapitre 8-30 converge vers la question de l'identité de Jésus. Dans les 8 premiers chapitres, Jésus nous laisse personne indifférent. Les foules sont d'abord frappées par l'autorité de son enseignement qui émane autant de ses actes que de ses paroles. Au chapitre 1, verset 25, nous sommes face à un homme qui avait un esprit impur et Jésus dit à l'esprit impur de sortir. Les gens étaient stupéfaits. Ils se disent, mais qu'est-ce que ceci? Il commande avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. Marc chapitre 1, verset 27. Puis au paralytique, est amené à Jésus. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Il guérissait beaucoup des gens qui avaient diverses maladies et les gens disaient, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Marc chapitre 2, verset 12. Et quand les disciples étaient dans la barque, pris de frayeur dans la tempête, Jésus les sauva, amenaçant le vent et la mer. Les disciples se dirent, mais qui est celui-ci? À qui obéissent même le vent et la mer? Marc 4, 41. C'est toujours la question de son identité. Et lorsque Jésus retourna chez lui, dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. Les gens étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de José et de Jude et Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Marc 6, 2, 3. Ça part dans tous les sens. C'est une avalanche de questions de l'identité de Jésus. Et puis toujours, dans le chapitre 6, au verset 14 et 16, il y a Hérode, qui est troublé lui aussi. Il a entendu parler de Jésus. Il a dû flipper. Je se disais, c'est Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Et puis les pharisiens, les docteurs de la loi, les ennemis de Jésus, ceux qui se confrontaient à lui. Regardez avec moi l'aveuglement des pharisiens. Au chapitre 8, verset 11. Les pharisiens dirent à Jésus, « Montre-nous un signe venant du ciel. » C'est quand même incroyable. Avec tout ce qu'ils ont vu et entendu, ils trouvent le moyen de dire à Jésus, « Montre-nous un signe venant du ciel. » Mais on a envie de leur dire, « Mais où étiez-vous? Vous avez loupé quelque chose. » C'est pas possible. Et après les pharisiens, ce sont les disciples, les amis de Jésus. Regardez toujours avec moi dans le chapitre 8, au verset 17 et 18. Jésus leur dit, êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous un cœur endurci? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Après la multiplication de pain, des pains et la nourriture pour plus de 9000 personnes, ne comprenez-vous pas encore? Depuis le début du chapitre de Marc, la question de l'identité de Jésus est à l'étude. Mais le problème, c'est que personne ne voit qui est Jésus. Personne n'a la bonne réponse. Qui est Jésus ? Les disciples ont vécu des mois avec Jésus. Ils sont devenus ses compagnons pourtant. C'est maintenant, seulement maintenant, que pour la première fois, Jésus leur pose une question au chapitre 8, verset 27. Qui suis-je au dire des hommes ? Il est temps de prendre position par rapport aux rumeurs. Ils répondent en faisant écho à cette rumeur publique et sans s'expliquer eux-mêmes. La réponse des disciples est surprenante. Jésus pouvait même être la réincarnation d'un mort, Jean le Baptiste, Élie, Jérémie ou un des prophètes. Les gens voyaient bien que Jésus était quelqu'un de spécial, mais une chose était certaine, il ne pouvait pas être le Messie, car Jésus ne correspondait pas à l'idée préconçue qu'ils avaient du Messie. Ces personnes qui le suivaient pourtant n'ont pas cherché à creuser la question, si je puisse dire, pour elles, Jésus ne pouvait pas être un prophète. Aujourd'hui encore, cette idée est d'actualité pour un grand nombre de gens. Notre idée toute faite de Jésus nous empêche parfois de nous ouvrir à une révélation plus grande de sa personne. Si Jésus est seulement perçu comme un nouveau Jean-Baptiste, un nouvel Élie ou un prophète, s'il est seulement celui qui guérit, chasse les démons, donne le pain, s'il est seulement celui qui délivre de nos souffrances, alors ce qu'il est, dans son identité profonde, n'est pas encore reconnu. À travers ses gestes et ses paroles, qu'ont-ils compris les disciples de Jésus et donc du Père ? Qui suivaient-ils ? Qu'ont-ils saisi du mystère de la promesse de Jésus ? Jésus va plus loin. La question s'adresse maintenant aux disciples et à nous aussi ce matin. Voici le pic du premier sommet. Regardez avec moi au chapitre 8, verset 29. Qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que je suis ? C'est le point culminant de ce sommet. Cette question est vitale pour Jésus, comme pour les disciples et pour nous aussi. Qui est Jésus ? Pierre répond, tu es le Christ. Tu es le Christ. La portée de cette parole de Pierre est immense. Tu es celui que nous attendons. Tu es le Christ. Tu es celui qu'ont annoncé les prophètes. Tu es celui qui sauve. Tu es celui qui rencontre nos aspirations les plus profondes. Le peuple juif est en attente de la prophétie de ce roi divin qui va venir accomplir toutes ses promesses. Après Malachie, il n'y a pas eu un prophète depuis 4 siècles. C'était le silence. Pas un prophète n'a parlé. Ils étaient tous dans l'attente du Messie, du Fils d'un homme, comme l'ont annoncé le prophète. Quelle est la définition de Christ ? Qu'est-ce que ça veut dire, Christ ? Christ est le mot grec pour Messie, qui veut dire « oint », c'est-à-dire une personne consacrée par une onction divine. Jésus, donc, est un prénom, alors que Christ est un titre qui signifie « choisi », « l'envoyé », « oint d'huile », « Jésus-Christ » et « le Messie ». Dans la Bible, il y a d'autres personnes choisies par Dieu. Il y a tous les grands prêtres au centre du culte juif et des prophètes qui ont été oints et surtout des rois, Saül puis David, qui ont été oints par Samuel, les prophètes. Mais un seul est Jésus, Christ, c'est-à-dire le Messie. En effet, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, comme l'annoncent les premiers versets de l'Évangile. lors du baptême de Jésus, par Jean-Baptiste. La parole du Père déclare qui est Jésus, le Fils bien-aimé. Cette relation unique avec le Père lui confère une autorité divine, notamment lorsqu'il remet les péchés et se déclare maître du sabbat. Il exerce aussi un pouvoir souverain, bienveillant sur l'âme et le corps des personnes en les guérissant de leurs maladies et en les libérant d'esprits mauvais, et sur la nature en maîtrisant les éléments déchaînés. Marc est en train de nous montrer dans ces 8 chapitres que Jésus-Christ est en train d'écraser tous ceux qui ont uni à notre existence. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est Christ. Même si Pierre ne perçoit sans doute pas encore tout le poids de cette affirmation, même s'il ne perçoit pas encore clairement que celui qu'il nomme Christ est Dieu lui-même au milieu des hommes, le fruit de ce long temps de compagnonnage avec Jésus est bien là, mais pas encore mûr. Il a vu, il a entendu, il a fait l'expérience par les mains, les pieds, les oreilles, que cet homme est unique, porteur d'un message unique, d'une autorité faite de douceur et de force comme il n'en existe pas d'autre. Il a saisi que Jésus a autorité sur le mal et qu'il vient du Père. La question que Jésus pose à ses disciples n'est pas là pour s'assurer qu'il est reconnu en tant que tel, mais là encore pour leur apprendre quelque chose, et à nous aussi ce matin. La réponse, bien que différente, était toute semblable sur un point. Jésus était un homme honorable, quelqu'un de bien. Les gens le respectaient, certains l'appelaient même maître lorsqu'ils s'adressaient à lui. Cependant, ces personnes ne voyaient qu'à l'apparence extérieure ce qui faisait Jésus, mais ils ne le connaissaient pas réellement. L'identité qui lui attribuait dépendait de ce qu'il voyait, mais il ne percevait pas l'identité réelle de Jésus. Aujourd'hui encore, cette idée est d'actualité pour un grand nombre de gens. Car nous l'avons dit précédemment, notre représentation de Jésus nous empêche parfois de nous ouvrir à une révélation plus grande de sa personne. Soyons sûrs de ne pas devenir des idéologues pleins d'idées reçues sur Jésus, mais en ignorant la réalité dans nos vies. Nous ne devons pas seulement nous contenter d'œuvrer pour Dieu, mais nous devons avoir un tête-à-tête avec Jésus, afin de le reconnaître, de le connaître, avoir une révélation de sa personne. Bien souvent, nous œuvrons pour Dieu, mais il aimerait que nous œuvrions avec lui. Et pour cela, il nous faut le connaître chaque jour. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette réalité historique de ce que nous avons vu. Moins de 30 ans après l'effet de tous ces témoins, chapitre après chapitre, il n'y a pas 50 réponses possibles. Quelle est la conclusion du chapitre 1 à 8 ? Jésus est le Christ. Il est le prophète qui nous enseigne la parole et la voix de Dieu. Il est aussi sacrificateur, celui qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu. Il est aussi le roi, le seul capable de régner avec justice sur le monde. Et si cela est vrai, si nous avons ce matin sous nos yeux l'homme, le seul homme de l'histoire de l'humanité qui est capable de dominer sur tout ce qu'il met en péril, notre existence, sur ce qu'il provoque nos difficultés, nos douleurs, nos souffrances, nos épreuves, si nous avons cela sous nos yeux ce matin, c'est une bonne nouvelle. C'est le sujet d'une grande joie et de liberté pour chacun d'entre nous. Nous sommes parvenus au pic du premier sommet en répondant à la question de Jésus. Qui dites-vous que je suis ? Pierre a répondu justement, tu es le Christ. Nous arrivons à la deuxième question, au pic, au pied du deuxième sommet. Quelle est la mission de Jésus? Quelle est sa mission? Maintenant que Pierre a trouvé la bonne réponse, c'est-à-dire que Jésus est le Christ, il reste aveugle. Revenez avec moi au verset 23 à 25. Il y a quelque chose de curieux. Qu'avez-vous remarqué sur ce miracle? C'est ça. C'est un miracle qui ne se fait pas comme les autres. Ce miracle se fait en deux temps. Regardez avec moi au verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et là, on est un petit peu déçu. Il regarde et dit, « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres et ils marchent. » C'est curieux. Que s'est-il passé? Est-ce que Jésus a eu une baisse de puissance? Est-il épuisé après tous ces miracles? Et puis, dans le deuxième temps, Jésus lui met de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarde fixement, il fut guéri et vit, et vu, et vit tout distinctement. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Cette guérison en deux temps, mais c'est quoi? Cette guérison en deux temps sert à illustrer la situation de Pierre. La situation des disciples. La situation de plusieurs d'entre nous ce matin. Elle illustre celui qui voit et en même temps qui ne voit pas. Qui voit des hommes mais comme des arbres qui marchent, qui ne voit pas distinctement. Si nous jetons un regard sur le temps de rétablissement de toute chose, un regard sur ce temps de bénédiction à venir, nous voyons que sous la nouvelle alliance, Ésaïe nous transporte en pensée dans cette époque par les paroles prophétiques suivantes. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Ésaïe 35, versets 5 à 6. Cette bénédiction se sont accomplies avec l'arrivée de Jésus-Christ parmi les hommes et l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Le but de l'Évangile est de voir distinctement et d'avoir du discernement. 1 Corinthiens 9, mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Cet Évangile va nous permettre de voir clair, de voir distinctement et d'avoir une bonne vision. Cet Évangile va nous permettre de nous dévoiler la profondeur de sa mission, de nous dévoiler sa mission véritable reçue du Père pour que nous puissions voir distinctement. Et c'est pour cela que dès le verset 31, Jésus commença à leur enseigner sa mission véritable. Depuis 8 chapitres, Jésus enseigne. C'était son activité principale. Il enseignait tout en faisant des miracles. Et puis, Pierre avait bien compris que Jésus était le Christ. Avant de regarder l'enseignement que les disciples vont recevoir, regardez avec moi la réaction de Pierre un peu plus bas, au verset 32. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. La réponse de Pierre est violente. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Il s'est mis à lui faire des reproches. Pourquoi? Parce que tout en ayant la bonne carte, Pierre et les disciples et beaucoup d'entre nous se sont trompés de chemin. Ce que Jésus enseigne au verset 31 devient une déception, une tristesse pour les disciples. Regardez ce qu'il leur enseignait. Nous arrivons alors au deuxième pic du deuxième sommet avec la véritable mission de Jésus-Christ. Nous lisons au verset 31, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Et regardez bien le verset 32. Il leur disait cela ouvertement, d'une manière qui ne se cache pas, et non pas comme les paraboles, si vous vous rappelez au chapitre 4. Pouvons-nous, ce matin, réaliser l'importance de ce verset 31 ? Il est difficile de réaliser concrètement. Pourquoi ? Parce que nous aussi, nous sommes tout autant aveugles que les disciples quand il s'agit de Jésus qui va mourir. Nous avons peut-être la bonne carte, mais nous nous sommes trompés de chemin. Pourquoi ? Parce que nous avons des pensées humaines. C'est notre moi qui roi. Colin nous l'a rappelé dimanche dernier. Qu'est-ce qu'on attend de la part de Jésus ? Ce qu'il veut faire pour nous ou ce qu'il va faire pour l'annonce de l'Évangile ? Si c'est ce que nous voulons qu'il fasse pour nous, regardez ce qu'il dit au verset 33. Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ses projets et ses priorités ne sont pas les nôtres, mais les siennes. Quelle est sa mission ? Il s'agit de s'attaquer à la racine du problème qui est le mal, qui infecte notre existence, où habitent tous nos problèmes dus au rejet du roi de l'univers. Jésus-Christ va mourir afin de nous sauver de la tragédie de tout gagner sur terre. Oui, Jésus-Christ devait mourir. Jésus-Christ pourrait dire « Je suis roi, mais pas comme tu imagines. Je ne vais pas changer le monde. Je ne vais pas sauver et changer ta vie en montant sur un trône, mais sur la croix. » Qu'est-ce que Jésus attend de nous ? Il s'agit du troisième et dernier sommet qu'il nous reste à gravir pour finir avec la question « Qu'est-ce que Jésus attend de nous ?» Regardez avec moi le verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il ne demande pas simplement de regarder et de voir, mais aussi de le suivre. Jésus impose 3 conditions. À celui qui veut devenir son disciple, renoncer soi-même, se charger de sa croix et le suivre. Les disciples doivent renoncer à lui-même. En d'autres termes, dire non à la volonté propre, à l'égocentrisme, à l'autosuffisance, à la dépendance, à l'exaltation de soi, à ses ambitions et intérêts personnels. Le roi représenté par notre moi doit descendre du trône et laisser Jésus, le roi, à cette place. Si Pierre est furieux contre Jésus, c'est parce qu'il suit son propre chemin. Et en évitant l'idée de la croix et de la souffrance, en voyant que Jésus a un autre chemin que celui du pouvoir ici-bas. Si nous voulons que Jésus suive notre chemin, alors nous voulons que Jésus soit un moyen pour atteindre notre but. Là, nous ne servons plus Jésus, mais nous nous servons de lui. Il n'est plus le roi, c'est notre moi qui règne. Là, nous ne servons plus Jésus, mais nous nous servons de lui. Il n'est plus le roi. C'est le moi, c'est le notre moi qui règne. Regardons la deuxième condition. Pour être un disciple de Jésus, se charger de sa croix. C'est pas porter sa croix parce que j'ai mal à ma jambe, à mon genou ou à mon dos. C'est pas cette représentation. La croix était un instrument de mort. Un homme condamné qui portait sa croix jusqu'à son lieu d'exécution perdait tout intérêt pour les choses de ce monde. Se charger chaque jour de sa croix, c'est mourir au péché. C'est un appel à redéfinir nos priorités. Voyant notre roi sur la croix, nous pouvons lui dire « Seigneur, tout ce que tu feras, tout ce que tu diras, je le ferai. Quoi que tu me demandes, je l'accomplirai. » Dans ce jardin de Gethsémané, tu as dit « Non, pas ma volonté, mais la tienne. » Maintenant, je dis « Non, pas ma volonté, mais la tienne. » Et enfin, la troisième condition pour être un disciple de Jésus, le suivre. On sait que depuis le début, Jésus cherche des hommes. Il les a choisis, il en a fait des disciples, il les a enseignés, il les a envoyés en mission pour le suivre. Ce n'est pas seulement pour le voir, c'est aussi pour le suivre. Il veut nous rendre participatifs. Suivre Jésus signifie marcher de près, derrière lui. Aller où il va et faire ce qu'il fait. Cela implique de faire sa volonté et non la nôtre. Cela implique aussi de ne pas former notre propre chemin, mais de poser nos pieds dans les traces de Jésus et ses empreintes passeront par le mont du Calvaire afin de suivre, de vivre une nouvelle vie. Une vie nouvelle. Jésus ne veut pas qu'on se perde, mais qu'on le trouve. Comme il nous disait, ne construisez pas votre identité en gagnant des choses du monde. Au verset 36, 37, et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? On peut se donner une image de réussite dans ce monde. Avoir une belle femme, ou un beau mari, de beaux enfants, une belle maison, une belle voiture, une belle carrière et un bon compte épargne. Mais si nous fondons notre identité sur cette possession-là, en pensant gagner le monde, nous perdons tout. Nous nous sommes trompés de chemin. Le problème n'est pas d'avoir toutes ces choses, mais que celles-ci ne suffisent pas pour exister. Le problème n'est pas d'avoir toutes ces choses, mais que celles-ci ne suffisent pas pour exister. Il ne s'agit pas de gagner, mais de perdre son moi royal, fondé sur son ancienne identité et de la fonder sur Jésus et l'Évangile. Ce n'est pas un acte de volonté qui peut nous sauver. Il s'agit de voir concrètement l'amour à l'œuvre dans l'Évangile, en Jésus, en allant à la croix. Si vous discernez qui est réellement le Fils de Dieu, alors nous commencerons à avoir de l'assurance. Vous commencez à avoir le sens de votre propre valeur, qui n'est pas plus basé sur ce que vous faites ou sur le fait que quelqu'un vous aime. Que vous avez de l'argent ou que vous avez perdu du poids, vous êtes libre. C'est l'œuvre de la croix. Au plus, nous nous débarrassons de ce que nous appelons nous-mêmes et laissons à Jésus, au plus, nous devenons véritables nous-mêmes. Nos véritables personnalités sont tout en train de nous attendre en Christ. Et dans cette manière de vivre le quotidien, c'est le royaume qui se construit. C'est Dieu lui-même qui vient habiter chez nous. Aujourd'hui, par son esprit, Jésus désire entrer dans nos vies, afin de régner sur notre être entier. Et enfin, le dernier verset de notre lecture, « En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de ces générations adultères et pécheresses, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Jésus nous encourage à assumer notre rôle de témoin du salut de Dieu, à ne pas se détourner, à ne pas détourner le regard de la réalité de notre génération. Sans doute, notre première misère, c'est de ne plus être reconnu comme homme. L'homme est capable d'aller jusqu'à déshumaniser l'homme pour suivre son chemin. Jésus nous propose un abandon de soi, de la royauté de notre moi. Alors il faut que nous témoignions ouvertement, sans honte, sans crainte, d'un Pierre accablé par l'annonce de la mort de son maître, craintif devant un si grand audace d'offrir sa vie ainsi. C'est en chemin que l'on peut approcher le mieux Jésus-Christ, le Messie, en cheminant avec lui. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je vous invite dans la semaine à parcourir et à construire et à continuer à cheminer les 8 autres versets, les 8 autres chapitres de l'évangile de Marc. Le 9e chapitre est une autre ascension d'une grande montagne et elle est avec un guide qui est Jésus. Voilà, merci pour toutes vos attentes.